Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Vous avez sans doute entendu par-ci, par-là, des personnes s'étonner de ce que Dieu n'intervienne pas dans ce monde misérable et malheureux. Un membre de ma famille affirmait que, si Dieu existait vraiment, rien ne l'empêcherait de se présenter devant les Nations Unies pour imposer la paix. Pourquoi ne se montre-t-il pas? Se cacherait-il? Par la même occasion, il pourrait mettre fin au beau gâchis que nous avons créé, la pollution de l'air, des rivières et du sol, la sécheresse, les inondations et la famine qui s'ensuit. On décharge des camions de nourriture sur les routes sous l'effet de la colère, alors que tant de personnes souffrent de la faim. Pourquoi Dieu ne vient-il pas régler ce déséquilibre en supprimant cette situation confuse, embrouillée, dramatique? Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne dévoile-t-il pas sa toute-puissance au monde, afin d'être reconnu et obéi? Se cacherait-il? C'est le sentiment que pourrait nous inspirer sa volonté de ne pas intervenir. Se désintéresse-t-il complètement de sa création? Puisqu'il se dit bon et miséricordieux, pourquoi laisse-t-il l'humanité se débrouiller toute seule dans cette pollution physique et morale? Voilà les arguments des incrédules. Mais Dieu ne se cache pas. Il se révèle à ceux qui ne sont pas aveugles. Commençons par lever les yeux vers le ciel. Toutes les planètes et les étoiles que nous y voyons se déplacent selon une chorégraphie magistrale et harmonieuse. Le prophète Ésaïe rapporte les paroles que l'Éternel prononça à ceux qui fabriquent des idoles et qui les considèrent comme des dieux. Il leur dit « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Qui les appelle toutes par leur nom? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Qu'il soit question de la terre, de l'espace, des nombreuses lois qui n'ont pu être établies que par un grand législateur, qu'il s'agisse des forces qui agissent dans le monde de l'infiniment petit ou dans le monde de l'infiniment grand, tout proclame l'existence d'un Créateur. L'apôtre Paul a écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Si l'homme veut examiner le monde qui l'entoure à l'état de nature, il y découvrira l'ordre et l'harmonie, ce qui révèle un Dieu créateur. L'apôtre Paul ajoute « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Effectivement, ce que l'on peut connaître de Dieu est évident pour tous ceux qui prennent la peine de regarder la création qui les entoure. Lorsque les scientifiques annoncent qu'ils ont fait une découverte, ils ne font que reconnaître ce qui a été établi par un grand législateur. Les grandes et les petites découvertes ne sont que les mises à jour de ce qui fut édifié par Dieu. Dieu se révèle dans la complexité de sa création, mais qui se soucie de rechercher le vrai Dieu et de faire toute sa volonté? Dieu se cache-t-il vraiment? Qu'en dit la Bible? Faisons un saut en arrière et remontons jusqu'au premier couple, Adam et Ève. Le récit de la Genèse raconte que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il lui donna une femme, il l'instruisit. Peu de temps s'était écoulé depuis sa création, mais Adam connaissait son Créateur, tout comme nous connaissons nos parents. Après avoir désobéi aux instructions qui leur avaient été données, quelle fut la réaction d'Adam et Ève? Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Adam et Ève connaissaient bien Dieu, mais nos premiers parents se cachèrent de lui, car leur désobéissance avait engendré en eux un sentiment de culpabilité. D'ailleurs, l'histoire de l'humanité révèle que depuis lors, l'homme n'a jamais cessé de se cacher de Dieu et l'a souvent rejeté, lui et tous ses messagers. 10 générations se succèdent depuis Adam jusqu'à Noé. À cette époque, la longévité de l'homme durait plus longtemps que maintenant. L'apôtre Pierre nous dit que Noé était prédicateur de justice. Il enseignait la justice, la voie divine, la juste façon de vivre. Malgré cela, le récit biblique nous apprend qu'à son époque, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Tout être humain avait abandonné la voie divine, à l'exception de Noé qui marchait avec Dieu. Dieu lui demanda de construire une arche pendant un laps de temps de 120 ans, dernier délai accordé à l'humanité. Noé incita les gens à se repentir de leur mauvaise voie, mais ils méprisèrent Noé et rejetèrent Dieu. Plus tard, les descendants d'Israël devinrent esclaves en Égypte et Dieu entendit leurs gémissements. L'Éternel était loin de se cacher. C'est pourquoi il décida de les délivrer de leurs joug pour les mener dans un pays où coulait le lait et le miel. De grands miracles s'accomplirent. 10 plaies s'abattirent sur l'Égypte et la dernière se soldera par la mort de tous les premiers-nés mâles des Égyptiens. Moïse relate que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu ne se cache pas, et se montre de façon évidente à tous. Mais les enfants d'Israël constatèrent avec effroi que Pharaon les poursuivait avec son armée. Ils prirent peur et dirent à Moïse, « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ils étaient terrorisés, mais ils allaient voir les eaux de la mer Rouge se fendre, afin qu'ils la traversent à sec et assister à ce miracle prodigieux, c'est-à-dire la destruction de Pharaon et de toute son armée. 3 jours après cette victoire, le peuple arriva à Mara, et parce que l'eau était amère, ils murmurèrent contre Moïse. Un peu plus tard, ils dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété ?» Ils cherchaient querelle à Moïse, et voulaient le lapider. Malgré la colonne de nuée et la colonne de feu qui les guidait, ils demandèrent, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» En d'autres termes, pourquoi Dieu se cache-t-il ? Ils eurent leur réponse quand ils se trouvèrent devant le Sinaï, où l'Éternel leur dévoila sa gloire et sa puissance. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La montagne du Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu du milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Alors Dieu énonça sa volonté sous une forme codifiée. Il livra les 10 commandements qu'il avait conçus et qui sont éternels. Quelle fut la réaction du peuple ? À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Qui cherchait à se cacher ? Qui voulait fuir ? Est-ce Dieu qui se présentait à eux dans toute sa gloire du haut du mont Sinaï, ou était-ce le peuple ? Le peuple demanda à l'Éternel de cesser toute communication directe avec lui et de disparaître. Les hommes s'étonnent alors et se demandent aujourd'hui pourquoi Dieu se cache. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette histoire ne se termine pas là, loin s'en faut. Moïse gravit le Sinaï pour y rencontrer l'Éternel qui le lui a demandé. Que se passe-t-il alors? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Leur raisonnement simpliste au sujet de Moïse absent et leur rancune à son égard les incitèrent à vouloir s'adonner à nouveau au culte des dieux égyptiens. Ce fut l'épisode du veau d'or. Les enfants d'Israël n'avaient pas abandonné dans leur cœur et dans leur mémoire les idoles égyptiennes. C'est ce qu'Ézéchiel confirme. « Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et ils se révoltèrent contre moi, et ils ne voulurent pas m'écouter. » Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Nous constatons que le peuple rejetait Dieu, tout comme Adam et Ève. Il ne voulait pas de lui, et le trouvait sur son chemin, parce que ce peuple, au cou raide, voulait faire les choses à sa façon. Lorsque celui-ci arriva aux abords du pays de Canaan, cette terre promise, Moïse y envoya des éclaireurs, et à leur retour, ces hommes firent un rapport négatif qui ne correspondait pas à la réalité. Comment le peuple réagit-il? Quelle fut la réaction de cette génération peureuse qui avait vu tant de miracles divins avant même leur sortie d'Égypte? Ils murmurèrent pitoyablement, « Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Autrement dit, que Dieu cesse de s'occuper de nous, nous en sortirons bien sans lui. Avec Josué et Caleb, qui avaient participé à l'exploration du pays et en avaient fait un rapport véridique, Moïse et Aaron leur répondirent, « Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. » L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? C'est ainsi que l'Éternel décida que ce peuple, ingrat et oublieux, n'entrerait pas dans la terre promise. L'Éternel fit cette déclaration. « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. » Ce rejet de Dieu n'a jamais cessé depuis la création de l'homme. Il se perpétue encore de nos jours. L'homme se refuse à voir que Dieu se révèle dans sa création, une création régie par tant de lois qui nous dépassent, et souvent, il le rend responsable de tout ce qui ne tourne pas rond, alors que son Créateur est compatissant et miséricordieux à l'égard de tous. La semaine prochaine, nous examinerons ce qui arriva après l'entrée de la nouvelle génération dans la terre promise, et nous verrons le parallèle avec les prophéties qui nous concernent.